débats, etc. Parce que je pense qu'ils se donnent beaucoup de mal et qu'ils méritent qu'on les remercie.
Bonsoir à toutes et à tous. Au niveau son, ça va ? Ouais, très bien. Y a-t-il des personnes qui découvrent le Café Philo ce soir ? Ce ne serait jamais venu, oui. Ben, bonsoir, bienvenue. Je vous explique en deux, trois mots comment on procède. Il n'y a pas de thème qui soit préétabli. C'est vous, public, qui allez proposer un certain nombre de thématiques, de questions. Et puis ensuite, on soumet ces questions à un vote très cordial. On peut voter pour autant de questions que l'on veut. Si chacune nous intéresse, on vote pour toutes les questions. Et puis celle qui emporte le plus grand nombre de suffrages, évidemment, fait l'objet de la discussion du débat, qui se terminera vers 20h30, 20h40, et qui sera suivi d'un petit pot, d'un temps de partage et de convivialité. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez des propositions, des questions, des thématiques que vous voudriez soumettre à la discussion ce soir, qui ferait donc l'objet de notre dernier Café Philo de la saison, avant qu'on se retrouve au mois de septembre. N'hésitez pas. Oui, monsieur, on va vous donner un micro.
J'ose lancer, voilà, bonsoir à tout le monde, mesdames, messieurs. Il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je voulais déjà poser un thème, mais bon, on en discute. C'est si on pouvait parler.
Essayez de parler comme ça.
Si on pouvait parler des différentes formes d'anesthésie générale et locale, mais autres que médicales. Anesthésie des esprits, générale ou locale. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer ? Voilà. Merci.
Alors,
je ne sais pas si j'étais assez clair.
Si. Comment formuler ça ? Sous forme de question ? Pas forcément sous forme de question. Anesthésie locale et générale des esprits. Voilà.
Bonsoir.
J'ai du mal à formuler la question. Bonsoir, monsieur.
Si on pouvait parler.
Ah, essayez de parler. C'est la petite.
Vous m'entendez ?
Voilà, comme ça, voyez, on va mieux vous entendre. Voilà.
Si on pouvait parler de l'antispécisme.
De l'antispécisme. Alors peut-être qu'il faut présenter ce que c'est que l'antispécisme pour. L'ensemble de l'Assemblée, l'antispécisme, c'est ce courant de pensée philosophique, sociale et politique qui consiste à remettre en cause la supériorité prétendue de l'espèce humaine sur les autres espèces animales. De quel droit, nous, les humains, exploitons-nous les autres espèces animales ?
Soit, alors moi, ce serait... je suis intéressée par le sujet de monsieur, c'est quelles sont les nouvelles formes de manipulation mondiale, politique. Voilà pourquoi il y a une pensée unique mondialiste. Voilà.
Quelles sont les différentes formes de manipulation dont nous sommes, dont nous serions aujourd'hui victimes ? Donc une première réflexion sur l'anesthésie des esprits, une deuxième réflexion sur le rapport entre l'homme et l'animal, et une troisième proposition sur la question des manipulations qui sont à l'œuvre un peu partout.
Comment vivre en confiance dans un monde d'incertitude ?
Comment vivre en confiance dans un monde d'incertitude ? En confiance, comment vivre en confiance dans un monde d'incertitude ?
C'est peut-être très proche.
Attends, ça va, c'est pas trop.
Non, ça va, incertitude, ouais. C'est au pluriel ou au singulier ?
Incertitude au pluriel ou au singulier ?
Les deux.
C'est peut-être très proche, mais moi je me demandais si l'individu peut atteindre un état où il est libéré de la peur.
L'individu peut-il atteindre un état où il est, où il serait libéré de la peur? On peut peut-être résumer, hein. Peut-on se libérer de la peur? N'hésitez pas. Avant qu'on passe au vote, est-ce qu'il y aurait d'autres idées, d'autres propositions de thèmes, de débats? Oui, bonsoir.
Bonsoir. C'est plus un thème, mais il y avait quelques temps, je ne sais pas si cette personne est là aujourd'hui, avait parlé d'un sujet sur l'humour. Et ça m'avait semblé assez intéressant. Un sujet sur l'humour.
Oui, oui.
Et du coup, mais l'humour par rapport à la période actuelle. Du coup, je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver comme question là-dessus, mais j'aurais bien eu envie de débattre sur ce sujet-là. Mais...
Je ne me rappelle plus, je dois dire, de la formulation de la question. La personne présente ne se reconnaît pas.
Non. Moi qui avais parlé d'humour.
Non.
Avons-nous besoin d'humour aujourd'hui? Peut-on se raccrocher à l'humour?
Eh ben voilà, peut-on se raccrocher à l'humour?
C'est dangereux.
Alors, si on fait l'inventaire, sauf s'il y a d'autres propositions, c'est bon? Oui? Il n'y aura pas de frustration? Non. Alors, est-ce que tu peux rappeler une question d'abord, puis après, on passera au vote.
Alors, le premier sujet, anesthésie locale et générale des esprits. Deuxième sujet, de quel droit, nous, humains, exploitons-nous les autres espèces? Troisième sujet, quelles sont les différentes formes de manipulation dont nous serions aujourd'hui victimes? Quatrième sujet, comment vivre en confiance dans un monde d'incertitude? Cinquième sujet, l'individu peut-il atteindre un état où il serait libéré de la peur? On a reformulé, peut-on se libérer de la peur? Sixième sujet, peut-on se raccrocher à l'humour?
Okay.
Alors, premier sujet, anesthésie locale et générale des esprits.
Donc, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous le souhaitez. C'est quand même rare, hein. Type de vote. Hein. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
De quel droit, nous, humains, exploitons-nous les autres espèces?
Donc, sur l'antispécisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Quelles sont les différentes formes de manipulation dont nous serions aujourd'hui victimes?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Comment vivre en confiance dans un monde d'incertitude?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Peut-on se libérer de la peur?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Excuse-moi, relevez la main. J'ai eu un bug et comme l'autre est à 22, voilà, je n'aurais pas créé de la distorsion et qu'on m'accuse de manipuler les votes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Merci.
Peut-on se raccrocher à l'humour ?
Peut-on se raccrocher à l'humour ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va devoir de nouveau voter. Alors, mais cette fois-ci, on ne vote que pour, évidemment, une fois.
Alors, c'est entre anesthésie locale et générale des esprits et peut-on se libérer de la peur ?
Alors, sujet 1, sur l'anesthésie locale et générale des esprits. Et on ne vote qu'une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Et peut-on se libérer de la peur ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est rare qu'on ait égalité. Hein.
Donc c'est anesthésie locale et générale des esprits.
On va parler d'anesthésie. C'est pas forcément au sens médical, mais au sens, on va le voir, psychologique, social, politique peut-être. Des esprits, ici et ailleurs. Alors, monsieur, je veux bien que vous preniez un petit peu le micro pour nous expliquer finalement un petit peu les tenants et les aboutissants, puis surtout ce qui vous a motivé à présenter cette question, en tout cas cette thématique. Pourquoi, ce soir ?
C'est pas seulement par rapport à l'actualité, bien sûr, ça l'englobe aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est tellement... victimes, surtout ces dernières décennies, de la désinformation, de tout ce qui est médiatique, qui, en fait, qui nous laisse peu d'espace de liberté, d'esprit, pour voir les événements avec plus de recul, un esprit critique et constructif, bien sûr, pas critiquer pour critiquer. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, peut-être aussi, par le fait que récemment j'ai eu une anesthésie générale, mais seulement médicale, cette fois-ci. Heureusement, ça n'a été que médicale. Et puis ressortir de cette anesthésie générale, une fois aussi locale, je me suis posé quand même un certain nombre de questions en me disant, mais si ça se passe, et ça s'est passé dans l'histoire, à d'autres niveaux qu'uniquement dans le domaine médical. Qu'est-ce qui nous rend finalement parfois indifférents à des événements très importants qui se déroulent depuis des années ? Bon, il y a les événements
d'actualité, bien dans le micro pour que vous...
mais aussi le reste. Voilà. Donc, je crois que c'est une question qui restera toujours présente, hein, quelle que soit l'époque, pour moi. En tout cas, certaines périodes peut-être davantage, certaines périodes de crise à l'échelle locale, régionale ou mondiale, et puis à d'autres moments peut-être ça s'atténue. Voilà. Merci de m'avoir donné le
micro. Très bien.
Pour préciser plus.
On peut peut-être qu'on peut d'abord, je vous laisse la parole, essayer de travailler un petit peu sur ce qu'on entend, je suis pas sûr qu'on entende tous la même chose, sur ce qu'on entend par la notion d'anesthésie, au-delà du caractère médical, sur l'anesthésie médicale, on comprend assez bien. Qu'est-ce que ça serait qu'une anesthésie des esprits ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière cette expression, en tout cas ce terme, ou cette notion ?
Alors, je ne vais pas répondre exactement à votre question, mais sur le sujet plus généralement, moi je ferais le lien justement entre... des cas d'anesthésie, on va dire des esprits, hein, puisque c'est de cela dont il s'agit, Et puis, le sujet sur la peur, en fait. Parce que je me demande si, justement, quand on est dans une position où on accepte, quelque part, d'être un peu en léthargie, en anesthésie, c'est pas aussi parce que on a peur, la peur étant fondée ou infondée, mais voilà. Donc je réponds pas complètement, mais bon, c'est quand même le sujet.
Si je résume en un mot, une réaction de défense, ou une sorte de prudence ou de protection de l'esprit par rapport
inconsciente ou consciente.
Consciente ou inconsciente.
Ouais.
Personnelle ou collective,
oui.
Par rapport à des situations qui seraient source de...
Oui, donc, moi, je pense que c'est assez relié aussi avec l'actualité, du coup. Mmh.
Donc, d'un côté, voilà, vous aviez, vous, introduit plutôt la notion d'indifférence, être indifférent au sort de... Et puis, vous introduisez ici, finalement, la notion de protection, voilà, par rapport à des sources d'angoisse ou de peur, enfin, peut-être d'ailleurs distinguer peur et angoisse. Oui.
Oui, moi pour rebondir sur l'indifférence, je pense pas que l'anesthésie ça soit la même chose que l'indifférence. Je pense pas que quand on est anesthésié, on est forcément indifférent. En tout cas, je pense pas que ce soit conscient. Je pense que quand on est anesthésié, même de manière médicale, bon, c'est voilà, malgré nous ou avec notre consentement, mais pour passer dans un état voilà où on est, on a pas mal, je dirais. Et je pense que l'indifférence, c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'on peut être anesthésié contre notre volonté, par effectivement la désinformation et tout ça, mais que si on ne l'était pas anesthésié par ça, on ne serait pas du tout indifférent. Donc en fait, peut-être que l'anesthésie des esprits, c'est de nous rendre indifférents, mais contre nous, en fait.
D'accord, nous subirions des... Alors, c'est peut-être on est un petit peu en train de travailler sur différents sujets qui ont été proposés. Nous serions finalement la proie ou la victime de techniques de manipulation ou bref, il y a sans doute d'autres facteurs qui, malgré nous rendraient indifférents au monde.
La dernière fois, j'avais proposé le sujet « La société actuelle nous permet-elle de penser par nous-mêmes ?» Je pense que c'est un peu...
Oui, oui.
Voilà, pour moi, c'est un peu dans cette veine-là. Mmh.
Oui.
Alors moi, je voulais apporter un éclairage psychologique, puisque j'ai un peu travaillé dernièrement sur la question de la clinique du traumatisme, et du coup, je pense qu'il peut y avoir des éléments intéressants. En fait, quand une personne subit des violences ou... Enfin, différents éléments qui seront traumatiques, alors il y a plein de formes de traumatisme, mais quand elle n'est pas capable de gérer cette violence, ça va dépasser sa capacité de contenance, c'est un trop-plein, et en fait ça va créer une situation de stress extrême, et ce stress est tellement important que pour pouvoir le gérer, que ce soit il y a un taux hormonal, de cortisol, enfin l'hormone du stress et d'adrénaline, c'est impossible à gérer pour le corps, du coup il va se mettre en rupture. Donc là on va avoir vraiment une anesthésie émotionnelle et un décalage, et les personnes vont se retrouver dans un état de distance avec ce qu'il se passe, comme si ça regardait un film ou que ça arrivait à quelqu'un d'autre.
Dépersonnalisation.
Une dépersonnalisation, tout à fait. Et du coup, donc c'est un niveau individuel, une personne qui se fait agresser par exemple, la maltraitance chez les enfants, du viol, des choses comme ça, ça va créer cet effet de décalage. Après, on peut se poser ensuite la question au niveau d'une société, en fait. Comment une société peut réagir par rapport à un événement très traumatisant? Est-ce qu'il peut y avoir aussi cet effet justement de décalage où, en fait, c'est impossible d'appréhender cette réalité-là? Du coup, on s'anesthésie, il peut y avoir une forme d'indifférence due à ça parce que ça semble irréel, en fait.
Mmh.
Voilà, donc je pense que ça peut être un élément de réflexion.
On reviendrait un petit peu à des stratégies, cette fois-ci, alors, avec un fondement biologique ou psychologique de protection.
Excusez-moi si je peux juste me permettre. C'est pas uniquement. Pour moi, il y a de l'indifférence, bien sûr. Mais surtout, ce qui est plus pesant, c'est cette masse de désinformation qui forge les esprits d'une manière malsaine et insupportable. Ce qu'on a appelé aujourd'hui le fake news, mais en fait, c'est pas nouveau. c'est pas Donatran qui l'a découvert. C'est, il y a 2500 ans, c'était un général de l'armée chinoise qui avait dit que l'arme la plus dangereuse dans son ouvrage classique de l'art de la guerre, que l'arme la plus dangereuse, c'était la désinformation. C'est cette désinformation aussi qui font parfois de l'anesthésie générale des esprits et ou locale. Hein. Voilà. Donc c'est au-delà de l'indifférence pour moi. Merci.
Je laisse réagir, mais sinon je veux bien reprendre un petit peu la parole. Mais moi, il me semble quand même, enfin, je ne suis pas médecin, que spontanément, vous voyez, j'aurais plutôt associé la notion, c'est complémentaire, c'est pas contradictoire, la notion d'anesthésie à la notion d'insensibilité. C'est-à-dire que lorsque je subis une anesthésie, dans un cadre médical, général ou local, mon corps, mon système nerveux devient. Chimiquement insensible à la douleur ou au plaisir, mais il y a rarement anesthésié pour le plaisir. Enfin, en tout cas, ça serait dommage. Mais bref, mon corps devient insensible à l'épreuve qu'il a à subir. Alors, de l'insensibilité peut découler de l'indifférence. Mais moi, il me semble que si on devait parler, enfin, en tout cas, à titre personnel, d'anesthésie des esprits, j'entendrais plutôt comme. Ce type de société dans laquelle alors, l'information ou les informations, il y a peut-être à mon avis d'autres facteurs qu'on va peut-être évoquer ce soir, ce type de société dans laquelle finalement nous devenons bon gré, mal gré, soit on subit, soit on consent, et à mon avis un petit peu des deux, nous devenons malgré nous insensibles au sort d'autrui, au sort de l'autre, de l'étranger, là-bas, ailleurs, au sort du monde et du vivant, j'ai à l'esprit de la crise écologique, ce qui est assez exceptionnel, enfin assez remarquable, mais extraordinaire au sens propre du terme, c'est que finalement plus les scientifiques nous alertent sur la crise écologique que nous subissons, plus les événements qui sont, c'est pas une fiction, se multiplient, et finalement plus on a l'impression qu'il y a une sorte d'insensibilité en tout cas collective, face à ces enjeux. Je ne parle pas d'indifférence. Je ne parle pas forcément d'indifférence, mais une sorte d'insensibilité. C'est-à-dire on sait, mais on fait comme si on ne savait pas. Et on vit comme si on ne savait pas. Et, donc, est-ce qu'on peut lier insensibilité à indifférence? Est-ce qu'on peut ensuite s'entendre? C'est peut-être la question qu'on pourrait se poser maintenant, à ce moment-là, la discussion sur un constat partagé. Est-ce que vraiment nous sommes dans cet état d'anesthésie collective? Je sais pas, je veux bien vous poser la question. Et puis, quels seraient les facteurs? Et si on arrive à les identifier, quelles seraient les pistes de réflexion qui nous permettraient peut-être de lever ces obstacles pour nous rendre un peu moins insensibles, un peu moins indifférents, un peu plus lucides, vigilants et, j'allais dire, concernés par l'état du monde et par l'état des sociétés dans lesquelles nous vivons. Donc finalement, j'allais dire, voilà, est-ce que vraiment on partage tous et toutes ce soir là, ce constat d'une anesthésie, d'une insensibilité, d'une indifférence que nous, dont nous serions à la fois coupables et victimes. Madame.
Je pense à certains gouvernements qui favorisent par la non-éducation ou qui veulent simplement un petit pourcentage des gens.
Ah, pardon. Je pense à certains gouvernements qui favorisent par la non-éducation ou ils favorisent juste une toute petite élite. Et donc, ils anesthésient le peuple, puisque la plupart deviennent. Enfin, qui n'ont pas assez de jugement personnel ou pour débattre et puis pour intervenir dans leur gouvernement. Donc, pour moi, c'est une anesthésie gouvernementale. Enfin.
Oui, avec des facteurs politiques et même. Comme vous disiez, en faisant référence à l'art de la guerre, avec des stratégies, j'allais dire, mises en place pour capter le pouvoir et le conserver.
dont vous avez parlé d'insensibilité. Ça faisait écho à quelque chose que je me disais là depuis le début. On parle d'anesthésie des esprits. Moi, j'entends aussi anesthésie du cœur. Et du coup, est-ce que finalement, c'est pas la conséquence de nos sociétés occidentales où on est en fait tellement dans nos têtes, tellement dans notre mental, que du coup, en plus qu'il y ait de l'anesthésie des esprits, il y a aussi une anesthésie du cœur. Et donc, du coup, si on pouvait se relier à notre cœur dans nos décisions, dans tous les autres sujets là, dont on n'a pas parlé, mais dont on parle quand même finalement, si on peut se relier à notre cœur, donc à l'amour et à faire des choix d'amour, je pense qu'on ne serait plus anesthésié.
Est-ce que ça me fait penser à un texte d'un passage de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, si on vous donnait la référence très précise, où Rousseau décrit l'homme, alors à l'état de nature, mais peu importe, décrit l'homme par deux passions, ce qu'il appelle des passions, c'est-à-dire deux sentiments fondamentaux, qui sont la pitié, d'un côté, et l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. L'amour de soi, c'est le désir de se conserver. Et finalement, Rousseau dit, finalement, la pitié, c'est ce qui nous pousse à prendre en charge le sort de l'autre. Aujourd'hui, on parlerait d'empathie, si on voulait employer des termes plus techniques et plus contemporains. Et l'amour de soi, c'est ce qui me pousse à prendre en charge mon propre sort. Et Rousseau dit, je caricature un petit peu pour les besoins de la cause, mais finalement, la nature est bien faite. Il y a un équilibre, finalement, de la sensibilité humaine entre la recherche, la conservation de soi-même et la recherche de la conservation de l'autre, de la préservation de l'autre. Et finalement, qui écoute son cœur, je cite de mémoire Rousseau, qui écoute son cœur sait ce qu'il doit faire. Et sait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il doit trouver, parce qu'il n'est pas insensible à son propre sort, et il n'est pas non plus insensible au sort de l'autre, et de l'autre c'est l'humain et le non-humain, il sait ce qu'il doit faire, et pour Rousseau, précisément, lorsque nous nous détournons de ce rapport sensitif à nous-mêmes, ce rapport au cœur, ce qu'il appelle le cœur, lorsque nous raisonnons, finalement, nous perdons cette boussole, et nous allons nous détourner de l'autre au profit non pas de ce qu'il appelle l'amour de soi, mais de ce qu'il appelle l'amour propre. Et l'amour propre, c'est une passion sociale, c'est celle qui veut me faire gravir les échelons, c'est le culte de la performance, c'est le culte de la recherche de la reconnaissance, etc. Et finalement, ce que dit Rousseau, c'est que si nous sommes insensibles à l'autre et au monde, c'est parce que nous privilégions le raisonnement, la raison, le calcul, la démonstration, au dépens de la sensibilité originelle. Il a un texte qui est très méchant pour les philosophes. Un philosophe est en train de se coucher. Il entend dans la rue une bagarre. Il y a des personnes qui sont... Voilà, il y a une personne qui est en train de se faire violenter. Que fait le philosophe? Il met son oreiller sur la tête. Il dit, Rousseau, c'est très méchant. Il raisonne un peu. Et il s'endort. C'est-à-dire que cette insensibilité, alors si on voulait reprendre le terme de ce soir, cette anesthésie du philosophe, elle vient de ce qu'il a, il s'est coupé de son cœur, de cet élan sensitif, en privilégiant le raisonnement, l'argumentation, l'argumentation, d'accord. Bref, il est philosophe et il laisse les autres s'engager à sa place. Donc là, ça ne serait même pas des désinformations ou une stratégie politique, sans doute qu'il y a ça, mais ça serait finalement cette confiance que nos sociétés modernes placent dans la rationalité humaine, dans le calcul. Effectivement, quand je commence à calculer, qu'est-ce que je fais? Je fais une colonne du plus et du moins, je fais une sorte de tableau de proportionnalité entre les coûts et les bénéfices. Et lorsque j'ai plus de coûts, cette fois-ci avec un P et un S à la fin, à prendre que de gains à obtenir, en fait, je reste chez moi, je laisse la personne se faire égorger et je m'endors. Donc c'est peut-être, ce que dit Rousseau, c'est qu'on crève finalement de ces calculs de la raison.
Parce qu'il n'y avait pas de raison.
Voilà. Excusez-moi, oui, monsieur, et puis je vais lever la main également. Monsieur.
Moi, j'ai tendance à penser que c'est au contraire, justement, qu'on est à l'époque moderne, on est peut-être euthanasié d'un point de vue idéologique. Mais au niveau des sentiments et de la compassion, de l'empathie, disons qu'on vit une époque très avec beaucoup de psychologisme, avec beaucoup, enfin c'est mondialisant, on a beaucoup d'images de l'antisémitisme par ailleurs, on est un peu, on a vu avec le mouvement woke, par exemple, il y a certains qui demandent de, si on condamne telle action sur les plateaux télé, on nous demande de.
Allez bien dans le micro pour qu'on vous entende.
Voilà. Vous m'entendez ?
Oui.
Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est le contraire. En fait, la différence qui est problématique, à mon sens, c'est que la sensibilité de la population, des gens, elle est plus dictée par les médias, par des organes de presse, par la culture. Elle ne vient pas du bas. Et ça pose un problème, parce que ça crée, des doubles standards, avec des causes qui sont plus mises en avant que d'autres, avec qui créent plus de compassion. Derrière, on a par exemple aujourd'hui, un mouvement woke, on a vu la mise en avant des minorités LGBT, par exemple. On a vu ce qui s'est passé en Asie avec certaines minorités religieuses, ce qui se passe en Afrique, il y a des conflits qui sont plus mis en avant que d'autres. Et en fait, il y a plus ce qui n'est pas gênant, hein. On a le droit de choisir ses causes. Ce qui est plus gênant, c'est qu'il y a c'est plus le pouvoir justement qui détermine l'importance d'une cause par rapport à une autre. On sait que derrière, il y a toujours des intérêts. Et je pense que la force aujourd'hui de l'époque moderne par rapport au passé, justement, c'est plus la raison. Je pense que la raison, elle est au niveau des gens qui ont le pouvoir. Elle est plus au niveau de la psychologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un psychologiste qui est très répandu partout. Aujourd'hui, quand on essaie d'avoir une discussion avec son voisin, on essaie d'apporter des arguments rationnels. Ce qu'on nous répond, c'est « il faut comprendre, mets-toi à sa place ». On est plus dans ça. Je pense qu'au contraire, moi, c'est mon avis, on est peut-être euthanasé, on a perdu le rationnel, enfin, le rapport avec la raison. Au contraire, on est plus amené à faire du cas par cas, à faire du sentimentalisme. Et je pense que c'est très culturel, c'est très lié à l'époque. Et ça crée une sorte de nivellement où, en fait, absolument tout le monde peut apporter son mot de débat sans se poser la question « Est-ce que je suis pertinent ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que je fais appel à des valeurs universelles ? Est-ce que... » En gros, c'est l'individualisme, le psychologisme qui est poussé à l'extrême. Et en fait, je pense que c'est un problème, parce que quand c'est amené au débat public, en fait, ça crée un non-dialogue. On faisait le communiqué, parce que le moi-je empêche l'échange, parce que l'échange suppose d'avoir des valeurs en commun, donc des valeurs plus ou moins universelles en fonction de... Ça peut être ethnocentré si on vit ensemble, mais qu'on peut, aujourd'hui, c'est mondialisé, d'avoir une vision ethnocentrée pour des sujets qui se passent à l'autre bout du monde, c'est pas très pertinent.
Ouais. Donc, il y aurait une anesthésie. Si je voulais garder le thème du débat, les termes pardon, du débat, l'anesthésie des esprits, parce qu'il y aurait une sorte d'individualisme compassionnel.
Ouais, c'est un sentiment pour la raison.
Voilà. L'individualisme compassionnel qui viendrait finalement tout brouiller, chacun réclamant un droit à la reconnaissance de sa souffrance, plutôt qu'à des valeurs sur lesquelles on pourrait, ou à partir desquelles on pourrait débattre. Effectivement, alors, avec un argument, enfin, c'est pas du tout un facteur philosophique ici, ou un argument philosophique, avec un facteur, j'allais dire, technique, qui est lié aussi à l'immédiateté et la mondialisation de l'information. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, en 2024, par un seul clic sur un réseau, au courant de tel ou tel drame qui peut toucher telle ou telle personne, telle ou telle communauté de personnes, à l'autre bout du monde. Sans remonter à la préhistoire, mais en remontant dans les dernières décennies du XXe siècle, c'était pas le cas. Il pouvait y avoir un drame, un massacre qui se déroulait à l'autre bout, sur un autre continent. Nous n'en savions rien. Et nous étions même pas anesthésiés, c'est-à-dire que nous n'étions ni indifférents ni insensibles, c'est-à-dire que nous n'étions pas informés. Et donc, effectivement, cette société de l'information en prise immédiate peut-être favoriser ce que vous développez, c'est-à-dire cet individualisme de la compassion, où on prend fait et cause pour des sentiments, à partir de sentiments, et non plus forcément à partir d'arguments ou de valeurs.
Moi, ce que je voulais rappeler, c'est en fait avec les progrès de des neurosciences. Moi, j'ai lu un livre, je ne me souviens plus, je crois que c'est Damasio, mais je ne suis pas sûre, qui dit en fait l'erreur de Descartes ou la raison des émotions. C'est-à-dire que je pense que, et que maintenant, même ça rentre aussi dans les manipulations, parce que maintenant on comprend de mieux en mieux, enfin on a encore beaucoup à apprendre sûrement, comment ce qui se passe dans le cerveau, et notamment le fait des neurones miroirs, qui sont maintenant une connaissance depuis moins de 20 ans, mais je veux dire que pour moi c'est un équilibre.
Alors juste un petit point d'information, les neurones miroires.
Oui, et ben les neurones miroirs, c'est ce qui,
pour que tout le monde puisse...
c'est ce qui conduit en fait l'empathie. C'est-à-dire qu'on sait se mettre à la place de quelqu'un.
Excusez-moi. J'ai appuyé sur... Pardon. Ça, oui. C'est pas très agréable. Mais... Je crois que c'est mon micro.
Pas.
Ça va ? C'est un petit peu gênant, mais. Je veux dire, on en était au neuromiroir.
Oui, le neuromiroir, donc voilà, c'est ce qui permet d'être empathique, en fait. C'est savoir se mettre à la place de quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est pour moi, je trouve que c'est une découverte importante. Et justement, maintenant, on en découvre de plus en plus, et quelqu'un qui n'a plus aucune émotion, les décisions qu'il va prendre vont être complètement, ça convient à l'indifférence, c'est-à-dire la personne, quand il y a eu un traumatisme ou quelque chose, la personne ne sait plus ce qui est bon pour elle ou ce qui ne l'est pas. Donc en fait, elle raisonne d'une façon anarchique. Voilà. Par rapport aux histoires de manipulation et tout ça, ça fait longtemps qu'on voit avec moi j'ai travaillé dans ce milieu là, donc je connais aussi dans le marketing, comment il est facile notamment les expériences qui ont été faites, quelqu'un a un message il y a un film, il y a un message qui est donné et les personnes en sortant alors qu'ils sont, on ne l'a pas vu vraiment, mais ça a été fait d'une façon très insidieuse, mais qui a eu un fort impact sur le cerveau.
Oui, alors là, on revient sur les techniques de manipulation. Ça, vous m'entendez, oui ? Sur les techniques de manipulation qui sont celles de la propagande, si on est dans le champ politique, ou de la publicité, si on est dans le champ du marketing. Enfin, la publicité, c'est la propagande commerciale. Effectivement, si vraiment ça n'avait aucun effet, on ne comprendrait pas pourquoi des sociétés peuvent dépenser des millions de dollars ou d'euros dans des campagnes pour vanter les mérites de tel ou tel produit, c'est que ça, évidemment, ça génère des effets. Vous avez une théorie, est-ce que ça a un lien avec l'anesthésie des esprits ? En tout cas, c'est en lien avec la question des manipulations. Alors, je suis désolé, c'est un terme, je déteste parler avec des termes anglais quand on peut parler en français, mais c'est comme ça qu'elle est connue, c'est la théorie du nudge. Et le nudge, ça signifie en anglais le coup de pouce. Le nudge, c'est quoi ? Ce sont des stratégies qui sont mises en place, alors, dans le champ commercial, dans le champ politique, dans le champ social, pour inciter, sans ordonner, pour inciter à certains types de comportements, pour induire tel type de choix, tel type de comportement. Il y a un exemple que je présente aux élèves lorsque je parle, c'est un moment d'un cours sur la liberté, sur le libre-arbitre. On a vu, c'est un exemple assez célèbre, dans des toilettes publiques masculines, dans des urinoirs, vous avez une petite mouche qui est dessinée dans l'urinoir. Question, pourquoi est-ce qu'il y a une mouche dans l'urinoir ? Et ça change tout. Effectivement, parce que nous allons nous amuser à viser la mouche avec notre urine, et comme nous visons la mouche avec notre urine, bah, nous allons uriner là où il faut uriner, c'est-à-dire dans l'urinoir, et pas à côté. Et ça réduit, vraiment, lorsque ça a réduit énormément les coûts de nettoyage, d'accord, puisque effectivement il y a de moins en moins d'urine mal orientée, de plus en plus d'urine bien orientée, par ce petit jeu de la mouche au centre de l'urine. Alors, vous avez la même chose, je ne sais pas si vous avez vu dans certains festivals, en tout cas nous ces festivals, vous avez pour récupérer les mégots de cigarettes, comme on appelle ça, des cendriers, merci, avec des petits jeux. Vous devez répondre, il y a une sorte de question, vous êtes plutôt ceci ou plutôt cela, d'accord. Et puis, alors, peu importe la réponse, hein, tout le monde s'en fiche, d'accord. Combien de temps met un mégot à se désintégrer, 5 ans, 25 ans, 500 ans, bref, peu importe. Mais comme vous êtes incité à jouer, ben vous allez mettre votre mégot non pas par terre, mais dans le cendrier. Et donc, vous allez réduire les coûts, etc. Et donc, finalement, on voit bien, finalement, cette manipulation, qui n'est pas, encore une fois, ici, de la grande propagande, le lavage de cerveau qu'on a connu et qu'on connaît encore dans l'histoire et pendant une campagne électorale. C'est pas forcément cette grande propagande, c'est pas forcément la publicité pour tel ou tel produit, ce sont simplement des micros, voilà, c'est ça, le nudge, des micro-influences, ce petit coup de pouce qui vous fait aller dans un sens plutôt que dans un autre. Alors, est-ce que ça a un lien avec l'anesthésie de l'esprit? Oui, peut-être. C'est-à-dire que si je suis incité à aller ici plutôt que là, bah, finalement, négativement, je suis incité à me rendre indifférent ou insensible à l'autre côté. Alors, ça va quand il s'agit de placer son urine là où il faut, c'est-à-dire dans un urinoir, ou mettre son mégot dans un cendrier, si on pourrait utiliser, et d'ailleurs, on utilise le nudge pour bien d'autres raisons. Je suis désolé pour ce bout de fond. Si quelqu'un est plus expert que moi, je veux bien n'hésiter pas.
Peut-être essayer de tout débrancher.
D'accord, on va prendre 5 secondes. Hop, j'éteins. C'est vrai que c'est... Je ne sais pas pourquoi d'un coup... Ouais. Okay. Non, c'est une interférence, hein, vous avez raison.
Oui, c'est une interférence, oui.
Alors, c'est lié, ça c'est le son, je suis en train de... Vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez. Vous ne m'entendez plus? Forcément, il n'y a plus de son. Donc, si je monte le son, je monte l'interférence. Voilà. Bon. Bon. Alors, on va faire avec, hein. C'est pas très agréable.
Je crois qu'on n'est pas très nombreux. Moi, j'ai une voix qui part.
Ouais, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde et c'est peut-être pas très facile pour suivre. Marie-France.
Oui, moi je voulais introduire dans le débat la notion d'attention. Je pense que l'attention, c'est la vertu sociale par excellence. Ça permet à la fois l'apprentissage, l'analyse, mais aussi l'attention à l'autre. Et on sait qu'avec les nouvelles technologies, il y a une réduction des capacités d'attention. Alors certains auteurs parlent d'hyper-attention, mais d'autres évoquent plutôt une attention dispersée. On zappe, on ne reste pas tout le temps sur le même sujet. Et je pense que ça joue un rôle dans le fait qu'on est plus capable de fixer notre attention soit sur un fait pour l'analyser, soit sur une personne. Être attentionné à l'autre.
Ça, oui. Et la conférence, je ne sais pas si vous y étiez, du mois de janvier, de Anne Alombert sur les nouvelles technologies, portait vraiment son... l'accent sur ce point, c'est-à-dire que non seulement effectivement il y a des stratégies pour capter l'attention, et puis surtout il y a un marché de l'attention, c'est-à-dire que certains types de réseaux sociaux, TikTok, etc., jouent sur la façon dont on va réussir à capter l'attention du cerveau humain de façon à vendre des publicités ici ou là. Voilà, effectivement.
Je voulais juste préciser mon propos de tout à l'heure quand je parlais de se relier au cœur et de se relier à l'amour. Je ne parlais pas de réaction ou de réactivité émotionnelle.
nous-mêmes d'exclure le mental et l'intellect. Mon propos, c'était plutôt comment on va remettre le mental, l'intellect, le raisonnement au service du cœur, donc au service de l'amour de soi, de l'amour de l'autre. Et je trouvais aussi que l'exemple du nudge est une parfaite illustration de cette anesthésie des esprits dès lors que l'on se laisse contrôler par le nudge sans s'en rendre compte. Et pour moi, l'analogie est la même quand on se laisse contrôler par ses émotions sans pouvoir les penser et donc, du coup être en réaction émotionnelle.
Après.
Je me pose la question de la relation entre la culture et l'anesthésie. On pourrait penser que plus on a de connaissances, l'anesthésie ne va diminuer. Alors je vois, par exemple, le problème de l'écologie. On a très régulièrement des rapports du GIEC. Et je vois les résultats des dernières élections, des partis écologiques, aussi bien en France qu'en Allemagne. Fortement diminué. Question.
Donc vous iriez faire un lien de causalité, ou en tout cas au moins une corrélation. Plus on en sait, plus on est informé, moins on est sensible.
Non.
Non, c'est l'hypothèse que je proposais, mais. Par rapport à l'exemple du vote écologiste et par rapport aux enjeux dont nous sommes, pour l'immense majorité d'entre nous, aujourd'hui informés. Mm-hmm. Tu devais demander la parole. Je vais peut-être me permettre. Moi, ça va. Je ne suis pas anesthésié.
Pardon ?
Ben oui, mais c'est par rapport au son.
Je voulais rappeler une période, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu plein d'incendies en Australie. Et le traitement médiatique m'avait pas mal marqué. Parce que quand on voyait les images, ça ressemblait à des films hollywoodiens en catastrophe. Vraiment, la manière dont c'était filmé, dont c'était présenté, on aurait dit vraiment que c'était la structuration, le montage et tout ça, l'image, la coloration et tout, ça faisait vraiment quelque chose de film, genre Netflix ou quoi. Et en fait, ça m'avait un peu interpellée, je ne sais plus. J'avais dû entendre un reportage justement qui parlait de ça en disant la manière dont c'est présenté dans les médias, ça ressemble à un film et du coup ça devient un peu irréel parce que on n'est pas en Australie, on voit ça, c'est à l'autre bout du monde et ça ressemble au film qu'on regarde. Et en plus, comme on est dans une course justement à l'attention avec des contenus de plus en plus catastrophistes pour avoir de l'audimat. On est dans cette espèce de surenchère émotionnelle où du coup, ça en devient irréel parce que la manière dont c'est monté aussi, ça ressemble à des films, à des séries. Et du coup, ça met de la distance avec la réalité. Et je trouve que même les réactions qu'il peut y avoir quand on voit, par exemple, les politiques, genre le fameux « Est-ce que vous condamnez les violences ?» On parle d'un génocide, on parle de gens qui sont violentés ou quoi. Et je trouve qu'il y a un complet décalage entre la question et puis la réaction des gens. En fait, il y a des gens qui sont en train de mourir en disant « Ah, mais est-ce que vous condamnez les violences ?» Et pour moi, il y a quelque chose de... On est dans un truc tellement extrême en termes d'émotion que c'est pas... Je pense que c'est pas gérable. Et du coup, on reste sur ce truc un petit peu irréel. Ouais, c'est comme dans un film. Mais la manière dont c'est tourné, ça pour moi, ça met justement cette distance.
Une sorte de mise en spectacle.
Ouais.
Ouais. Ah oui, ça c'est le problème du café philo, c'est qu'entre le moment où on en a parlé et le moment où on parle, il y a toujours un décalage.
En fait, si je me souviens bien à quoi je pensais à ce moment-là, c'est le lien entre... En fait, parfois j'ai un peu l'impression que on refuse quelque part d'assumer sa responsabilité individuelle en se cachant derrière ces phénomènes qu'on est censé subir ma question, mon interrogation, c'est de dire comment peut-on être quelque part aussi malhonnête intellectuellement. Je vais peut-être un peu loin, hein, mais c'est un raisonnement poussé à l'extrême. Mais je trouve que il y a une sorte de malhonnêteté à dire, on est collectivement anesthésié, ou il y aura une malhonnêteté. Et en fait, c'est pas notre faute, quoi.
D'accord. Voilà. Okay. Donc, insistez-vous plutôt sur la responsabilité de chacune et chacun.
Oui, oui. Je trouve que c'est un peu facile. En fait.
Ou cette indifférence.
Après, chacun a son acquis, son éducation, son environnement, son parcours de vie. Et donc, je peux comprendre que tout le monde n'est pas. Mais moi, à titre individuel, oui, ça m'interpelle.
Je me permets juste, après, je vous redonne la main, bien sûr. Introduire un terme. Alors justement, ça fait penser à votre proposition, monsieur, sur antispécisme, parce que c'est une expression qui est assez agitée dans ces milieux-là. On parle de dissonance cognitive. On parle de dissonance cognitive pour indiquer quoi ? Pour indiquer un phénomène que nous avons tous vécu, que nous vivons tous, qui est le décalage et même la contradiction ou l'opposition qui s'opère parfois, souvent, toujours, je vous laisse choisir le terme, qui s'opère, disais-je, entre la représentation d'un fait et le choix de notre action. Je prends un exemple très, très parlant et qui est en lien avec les questions de manipulation, de marketing, etc. Dans les milieux animalistes qui défendent les droits des animaux, etc. On prend souvent l'exemple de la consommation de viande. Et là, on a un bel exemple de dissonance cognitive. Lorsque je vois un morceau de viande sur l'état du boucher ou dans une barquette d'un supermarché, je vois un morceau de viande. Je vois un steak, je vois un rhum steak, enfin, moi je vois un morceau de viande. Et je sais très bien que ce morceau de viande, c'est un animal qu'on a élevé pour 90% d'entre eux dans des conditions d'élevage intensif. Je sais très bien que ce morceau de viande, c'est un animal qu'on a abattu pour 90% d'entre eux dans des conditions absolument abominables et de souffrance infinie. Je sais très bien que ce morceau de viande, finalement, c'est du cadavre que je vais manger. Simplement, lorsque j'achète ce morceau de viande, et bien, je ne parle pas d'animal mort, je ne parle pas de cadavre, je parle de viande, je parle de pièces du boucher avec ces différents éléments. Lorsque je m'apprête à acheter et à consommer ce morceau de viande, je sais tout ça, mais j'ai bien l'impression de ne pas faire souffrir des animaux ou de ne pas remettre encore un euro dans la machine à broyer de la vie animale. J'ai bien l'impression de manger de la viande. Et donc finalement, je sais très bien que la viande, c'est l'animal qui, pour l'immense majorité des animaux, sont élevés et tués dans des conditions absolument atroces, mais je fais le choix de manger de la viande en me disant la viande, ça n'a rien à voir avec l'élevage intensif. Et finalement, alors soit on décrit simplement les faits, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, donc il y a une sorte de dissonance entre ma cognition, ma représentation et mon choix, donc soit voilà, on décrit cet effet psychologique, alors qui est en lien aussi avec des stratégies marketing, etc. Parce que quand j'achète un morceau de viande, j'ai toujours une image, une jolie petite vache dans son pré qui broute de l'herbe, alors qu'il n'a peut-être jamais vu une seule fois dans sa vie la lumière naturelle. Enfin bref, fermons la parenthèse. Donc soit je décris simplement le phénomène, soit j'insiste, comme vous l'évoquiez, sur la responsabilité individuelle. Mais qui es-tu, toi, pour accepter cette dissonance cognitive qui te rend peut-être insensible ou indifférent au sort d'un autre.
ça fait le lien avec ce que monsieur disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas forcément un facteur de connaissance.
Ouais. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure suite à ça, c'est que je savais pas le terme cognitif, hein, mais je pensais qu'il y avait une forme d'irrationalité. On parlait tout à l'heure de la raison et de l'émotion, la raison, les sentiments, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Je pense que peut-être c'est le propre de l'homme, c'est pas du tout pour excuser des comportements qui peuvent être compliqués et critiquables, mais j'ai la sensation qu'il y a une forme d'irrationalité à un moment donné. Par exemple, effectivement, on a tout un tas d'alertes et d'informations sur la planète, l'écologie, bon, on le prend chacun au niveau qu'on veut, mais malgré tout, au moment de voter, alors peut-être parce qu'il y a des enjeux plus importants, je ne sais pas, et est-ce qu'il y en a les plus importants, mais il y a une déconnexion, en fait, entre la raison, ce qu'on sait, ce qu'on pense, donc la connaissance, qui est objectivement juste, et puis le comportement, qui n'est pas un comportement de renier la connaissance, qui n'est pas un comportement de mise en danger, c'est juste peut-être à ce moment-là la peur aussi, l'impuissance, et à un moment donné, on agit sans s'en rendre compte vraiment contre ce qu'on sait, contre ce qu'on sait qu'il faudrait faire, et peut-être que d'ailleurs on agit comme ça, pas seulement pour des grandes causes. Quelquefois dans sa vie propre aussi, je pense,
Ça, je prenais l'exemple de la consommation de viande.
On fait des choses et après on se dit, mais après il y a des gens qui voient des tiens, ils disent, ben, elle dit ceci ou il dit ceci, puis il fait ceci ou il fait cela, et c'est pas, ça va pas ensemble. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un fonctionnement du cerveau humain qui fait qu'il n'y a pas forcément une logique entre ce que l'on sait, ce que l'on sent, ce que l'on fait, parce qu'il y a autre chose qui entre en jeu et je ne sais pas quoi.
J'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit, parce que vous parliez enjeux écologiques. On sait très bien qu'il y a des gaz à effet de serre qui causent du réchauffement climatique, etc. etc. Enfin, voilà. Merci le GIEC. Et pour autant, en 2023-2024, jamais l'humanité n'a autant pris l'avion qu'auparavant. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de partir à l'autre bout de la planète, ou même, d'ailleurs, en train de me faire un Paris-Nice en avion, c'est ça, des signaux cognitifs. Je sais que je suis en train, moi, d'augmenter mon empreinte carbone, et donc, finalement, d'accroître le dérèglement climatique, et pour autant, je le fais. Alors, est-ce que ça veut dire que j'en porte la responsabilité? Enfin, je vous laisse la parole. Hein. Est-ce que ça veut dire finalement que je suis un salaud, pour le dire un peu de manière un peu vulgaire, et c'est l'esprit, excusez-moi, c'est les termes qui viennent à l'esprit? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cette dissociation entre ce que je fais, pardon, entre ce que je sais et ce que je fais? Voilà.
Oui.
Alors, dans l'ordre, c'était monsieur, oui, pardon.
Moi, je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit sur les incendies.
Sur la mise en spectacle, oui.
Voilà, en mise en spectacle. En fait, c'est vrai qu'en fait, ça donne une impression d'irréalité, des actions de distance. Mais aussi, à l'inverse, moi, j'ai l'impression que quand on est confronté, qu'on apprend une nouvelle, qu'on est noyé dans l'information, quand on apprend qu'il y a une tragédie, un problème, une crise, un mort, etc., on ne se représente pas forcément. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont capables de pleurer à chaudes larmes devant un grand film, un grand spectacle, et qui sont pas capables de cette attitude quand ils n'ont pas des tragédies réelles, parce qu'on ne sont pas mis en scène, il n'y a pas le vivant, il n'y a pas le pathos culturel qui va avec. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une question d'imagination. En fait, on est confronté à une tragédie ou même à une joie, quelque chose de positif et d'intense chez quelqu'un. Il faut être capable de se représenter, s'imaginer quelque part le vivre soi-même, voir créer une empathie. Et je pense que noyé dans une masse d'informations, d'événements, de tragédies, même de fêtes, de nouvelles, en fait, on fait un choix qui nous ressemble. C'est-à-dire que si on est dans le joie, l'exemple qui est souvent donné. Sans jugement sur les soucis, et en fait l'exemple qui est donné par beaucoup de gens, c'est le cas du réchauffement climatique, de la pollution. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fonction de la catégorie sociale à laquelle on appartient, en fonction de ces soucis, en fait c'est une question qui va être plus ou moins abordée. C'est entre guillemets une question de gens qui n'ont pas d'autres problèmes, pour caricaturer, même si c'est un problème qui nous a tout le monde. Et je pense qu'on est plus ou moins sensible en fonction de ce qu'on vit soi-même, de ce qu'on a vécu, des gens qu'on a autour de soi, et de la façon dont on se représente le problème. Donc c'est pour ça, je pense, qu'on a du mal à compatir, à la souffrance d'un animal. Des gens qui ont des chiens n'ont pas de problème. Quand se soignent, on tue des millions de microbes, et tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, on ne se le représente pas. Je pense qu'il y a un peu de... C'est caricatural, mais c'est... Je pense que c'est réel. Et ça se retrouve aussi au niveau des gens, des personnes. Plus une personne est loin de nous, pas forcément en termes de distance, enfin de distance kilométrique, mais plus en termes de... Elle ne ressemble pas. On n'a pas forcément de référence, les mêmes modes de vie, la même... participant à la même classe sociale. Je pense que ça joue énormément sur, sur l'empathie et sur justement, cette question d'anesthésie, c'est-à-dire que plus c'est loin, moins ça nous concerne, moins on réagit, moins on, peut faire, on a envie de faire quelque chose pour, et on vit très souvent en Occident. Donc, on est plus concerné, on agit plus pour les tragédies occidentales. Avec l'Ukraine, par exemple.
Et pour autant, samedi encore, à Orléans, il y avait une manifestation en soutien au peuple palestinien.
Je voulais revenir sur ce que vous entendez dire. Je sais, et pourtant je fais. Pour moi, ça a trait à tout un travail, qui est peut-être le travail d'une vie, qui est celui de la congruence. Et je fais le lien entre... avec cet examen de conscience qui pour ma part se doit d'être quotidien, c'est-à-dire que nous sommes dans une société de désir et le désir passe avant tout. Et jusqu'où irons-nous on va se prendre le mur quand en fait. Et voilà, je mets ça vraiment sur un questionnement quotidien. Je veux faire une exception. C'est pas... Oui, d'accord, je prends l'avion. Enfin bon, c'est exceptionnel, etc. C'est aussi tout un sujet qui est cher à mon cœur. C'est la différence entre les besoins et les désirs. Voilà.
Qui fixe les limites ? Qui fixe... Il y a toujours un désir...
Avec le micro, parce que sinon, on ne va pas vous entendre et c'est...
Il y a toujours le désir de quelqu'un qui va paraître un besoin et le besoin de quelqu'un qui va paraître un désir. Je pense que qui va fixer que il faut manger de la viande ou pas, ou c'est mieux d'en manger ou pas ? Qui va dire qu'il faut prendre l'avion ou pas ? Et pour quelle distance ? Effectivement, madame parlait des... C'est peut-être anecdotique, mais du prix du chemin de fer par rapport au billet d'avion dans les lignes, sur les lignes intérieures, je pense, hein, parce que pour traverser la mer, c'est autre chose. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné... On risque aussi une forme de dictature, c'est-à-dire qu'on impose des comportements en fonction de ce que quelqu'un va avoir le pouvoir d'imposer. Et je pense que il faut faire attention à ça. Parce que l'examen de conscience personnel, bon, ça peut paraître bien, mais par rapport à quelle grille de lecture ? Et qu'est-ce qui dit, après tout, que votre examen de conscience va produire les bonnes réponses et qu'elles seront adaptables à tout le monde ? Ça peut être une forme de dictature aussi, d'imposer des comportements, parce que soi-même, on a réfléchi dans un certain sens. C'est pas contre vous, hein, mais je peux le faire aussi pour moi. Parce que vous me regardiez tout à l'heure, vous ne savez pas si je prends l'avion, après tout. Mais voilà, c'est quand même des questions générales. Je veux dire, il faut faire attention de ne pas penser qu'on est éthiquement correct et puis que le voisin ne l'est pas, sous prétexte qu'il n'a pas les mêmes désirs ou qu'il n'a pas les mêmes besoins.
Monsieur.
Ah oui, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, oui.
Oui, même sans micro ?
Non, avec un micro, c'est mieux.
Oui, c'est mieux. Alors, oui, je suis désolé, je ne voudrais pas vous monopoliser la parole, quand même. Si je peux me permettre, à vos deux termes de l'insensibilité et de l'indifférence,
bien dans le micro.
Ça pourrait ajouter aussi un autre terme, qui est la banalisation. Les informations ici. Et ce à quoi je pense aussi, pendant que j'étais étudiant, on parlait du poids des mots. Quand il y avait un athée, indépendamment de Bernard Pivot, même dans les langages comme ça courant, c'était plus le poids des mots, de ce qu'on mettait dans ces mots. Petit à petit, on a glissé vers une autre sorte d'impact qui est l'impact des images. Que ce soit des images animées ou non animées, on a parlé des incendies de l'Australie. Je pensais aussi à quelque chose qui peut devenir, qui peut nous anesthésier. Pour les plus jeunes, peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas, le film d'Orange Mécanique. Oui. Cette violence terrible, hein, oui. Quand on essaie de soigner l'un des chefs, et on lui met de la musique classique, tout simplement, qui n'est pas violente. Et puis, on le fait écouter, c'est un peu comme on fait passer des images en boucle. Et ça aussi, c'est une forme, pour moi, je pense, qui pourrait être aussi une forme d'anesthésie. Bon, aujourd'hui, je termine là-dessus, on est entouré par tant de moyens modernes et hyper sophistiqués, des moyens de communication. On dit souvent que trop de communication, ça tue la communication. Trop d'informations peut tuer aussi l'information. Alors, ma question très subsidiaire, c'est que trop de désinformation, qu'est-ce que ça donne? Voilà.
De monopoliser aussi pas mal la parole. Pour revenir justement à la question de la désinformation, des sensibilisations, tout ça, du coup je me demandais, est-ce que on est à ce point dans une forme d'anesthésie, parce qu'on est quand même aussi pas mal dans une logique de bouc émissaire aujourd'hui, où quand on voit la montée de l'extrême droite et tout ça, et que bon, il y a quand même une montée de la peur et tout, donc il y a peut-être quand même un effet qui est produit et qu'on a besoin d'orienter son mal-être quelque part et trouver quelqu'un qui est responsable. Alors, je ne sais pas si ce serait pour l'écologie ou quoi, mais bon, il y a quand même une recherche de coupable derrière, je trouve. Donc, est-ce que... Je ne sais pas comment lier ça avec la... Enfin, est-ce qu'il y a une forme vraiment d'insensibilité ou il y a une insensibilité mais qui finalement quand même indirectement mène à ça?
Avec des stratégies de... Vous m'entendez? Oui. Avec des stratégies de manipulation derrière, c'est ça ce que tu aurais à l'esprit? Enfin, on fabrique, on désigne un bouc émissaire. Dans toute crise, toute communauté a toujours désigné un bouc émissaire.
Il peut y avoir quelque chose d'artificiel dans les médias et tout ça, mais je pense que même à notre niveau, moi, si je m'interrogeais moi-même, bon, j'ai des coupables en tête, je veux dire les ultra-riches ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est juste aussi pour moi, pour me rassurer, de me dire « Ah, mais c'est eux les méchants, ils n'arrêtent pas de prendre leur diète privée et tout, mais enfin, qu'est-ce que j'en sais au fond ?» Voilà, est-ce que aussi c'est pas un moyen de me rassurer en orientant quelque chose? Parce que, c'est, enfin, l'insensibilité pour moi, elle n'est jamais... elle n'est jamais totale, quoi. Il y a quelque chose... Il y a une émotion, on la ressent pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là non plus. Donc, c'est peut-être plus complexe.
Je me demande si... n'hésitez pas à prendre la parole. Pour revenir au troisième terme que vous avez introduit, après celui d'indifférence et celui d'insensibilité, sur la notion de banalisation, je me demande si cette anesthésie des esprits et des cœurs... dans le sens où vous l'entendiez tout à l'heure, ne pourrait pas non plus reposer sur ce qui est peut-être le propre des sociétés modernes, à savoir une hyper-hiérarchisation, où chacun finalement renvoie à son... excusez-moi, je déteste ce langage-là. Renvoie à son N plus 1, qui renvoie à son N plus 1, qui renvoie à son N plus 1, etc. Où finalement, j'obéis à des... alors, soit à des injonctions explicites, soit à des conseils implicites, des coachs de ceci, des coachs de cela, etc. etc. Et finalement, en étant finalement dans cette structure pyramidale, où on me dit quoi penser, quoi faire, quoi manger, comment m'habiller, etc., où on construit mes désirs, finalement, je me rends aveugle à moi-même, à mes besoins, alors si on arrive à distinguer les besoins des désirs, à mes besoins, à moi-même, donc, et aux autres. J'entends par là, vous connaissez peut-être l'ouvrage que Hannah Arendt, la philosophe allemande, puis ensuite américaine, puisqu'elle était réalisée états-unienne, que Hannah Arendt a consacré à Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, c'était l'un des hauts dignitaires nazis et l'un des grands responsables de la Shoah, de la solution finale, de l'extermination des Juifs d'Europe et d'autres minorités, d'autres peuples. Et Eichmann était responsable de la logistique, c'est-à-dire en gros du transport des victimes d'un point A en Europe jusqu'au four crématoire. Et Eichmann travaillait à Berlin, dans les beaux, dans un très beau bureau, quartier central de Berlin. Il n'est sorti que deux fois de son bureau pour aller sur le terrain, comme on dit. La première fois, il s'est évanoui lorsqu'il a été en face de la réalité des camps d'extermination. Et la seconde fois, paraît-il, il a passé son temps à vomir toute sa bile, etc. Bon, déjà, il y a cette, j'allais dire ce que vous disiez tout à l'heure sur la distance géographique, la distance psychologique entre ce que je fais et les effets que ça engendre. Et puis, dans la ligne de défense d'Eichmann, qui, vous savez, a été capturé par le service secret israélien, jugé à Tel Aviv en 1961, condamné à mort, la ligne de défense d'Eichmann était relativement simple, malheureusement simple, et on la connaît, hein. On l'a réitéré depuis, hein. C'est la ligne de défense de la modernité, qui consiste à dire, je n'avais rien spécialement à titre personnel contre le peuple juif, je n'étais pas antisémite. Bon, c'est faux. En fait, on sait aujourd'hui que c'est faux, que Eichmann était antisémite. Bon, bref, admettons. Donc, j'aurais pu, si on m'avait demandé de faire autre chose, j'aurais fait autre chose. Et deux, en fait, ce n'est pas moi. J'ai obéi aux ordres. Et ce que vous me reprochez, c'est d'avoir été un bon fonctionnaire. J'étais un bon fonctionnaire de l'État allemand, qui, en l'occurrence, à l'époque, était l'État du Troisième Reich, donc l'État nazi. Mais j'ai des N+1 qui me donnent un ordre. Son surnom à Eichmann dans la hiérarchie nazie, c'était d'être le spécialiste. C'était son surnom. Je suis spécialiste de la question juive. Je suis reconnu pour mes compétences. On me file un ordre. Je fais mon ordre. J'ai bien fait mon travail. Donc finalement, ce que vous me reprochez, c'est d'avoir été un fonctionnaire efficace, zélé peut-être, mais en tout cas efficace, d'avoir fait ce pourquoi j'étais fait dans la place qui était la mienne. Et quand on lui pose la question, Arendt publie la dernière plaidoirie d'Eichmann, où il prend la parole juste avant le verdict, quand on lui pose la question, mais est-ce que vous n'avez pas des problèmes à vous endormir le soir, des problèmes de conscience finalement, ce conflit qui pourrait se jouer entre votre conscience intime d'homme et puis votre devoir de fonctionnaire, Eichmann répond « Ma conscience, je la garde pour moi. » C'est son expression. « Ma conscience, c'est mon affaire à moi. » Et finalement, je ne vais pas me chercher les poux dans la tête. Finalement, vous m'accusez finalement d'avoir été insensible au sort de ces millions de personnes qui ont perdu la vie dans des conditions les plus inhumaines qui soient. Mais finalement, cette insensibilité, cette indifférence, elle vient finalement du simple fait d'avoir respecté les ordres. Et Arendt, c'est pour ça que votre intervention m'a fait penser à ce texte très célèbre, Arendt a pour sous-titre de cet ouvrage, c'est Eichmann à Jérusalem, du nom de... Eichmann à Jérusalem, essai sur la banalité du mal. Essai sur la banalité du mal, non pas... contresens qu'il ne faudrait surtout pas faire, que le mal soit banal, mais au contraire, il y a une banalisation, et la banalisation, ce manque de pensée, ce manque de profondeur, pour reprendre les expressions d'Arendt pour décrire Eichmann, ce manque de pensée critique, ce manque de profondeur, c'est bien ça, le mal. Finalement, le mal, dit le mal moderne, le mal de ces états hyper hiérarchisés, hyper puissants dans leur organisation pyramidale tentaculaire, le mal, c'est la banalisation d'un acte qui ne fait que répondre à des injonctions qui lui échappent. Alors, d'où la question de la responsabilité. De quelle responsabilité Eichmann doit-il finalement se... Comment dire? De quelle responsabilité, pardon, Eichmann est-il le nom? Et vous avez un texte, excusez-moi, je déborde, je vais le référence en référence dans mon petit esprit, là. Vous avez un texte d'un autre philosophe qui était un compagnon d'Anna Arendt, Günther Anders, qui est un peu moins connu d'Anna Arendt. Günther Anders, donc philosophe allemand, pareil, même période, on est dans les années 60, où Anders travaille bon, sur la technique, etc. Ici, c'est pas l'objet. Et il écrit un petit texte que je fais lire aux élèves, qui est un texte extrêmement violent, enfin, d'une violence conceptuelle, qui est... Nous, virgule, fils d'Eichmann. Et ce sont deux lettres ouvertes au fils d'Eichmann, au fils d'Adolf Eichmann, à Klaus Eichmann. Et je résume ça très rapidement, parce que je trouve que c'est assez intéressant par rapport à cette idée d'anesthésie. Anders dit, mais finalement, alors il s'adresse à Klaus Eichmann, et lui dit, c'est très méchant au départ, enfin c'est très violent, j'aimerais pas être à votre place. J'aimerais pas être le fils d'Adolf Eichmann. Mais rassurez-vous, entre guillemets, avec un rassurez-vous ironique, vous êtes le fils d'Eichmann, nous sommes tous les fils et les filles d'Eichmann. Nous sommes tous des Eichmann en puissance, parce que nous sommes tous victimes, ça c'est une expression que je trouve très intéressante, de ce qu'il appelle la loi du décalage. Et la loi du décalage, c'est la loi de notre modernité technologique. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, tout à l'heure je parlais de dissonance cognitive, il y a un décalage, mais que la modernité technique nous oblige malheureusement à subir entre la représentation des effets de notre action, entre la représentation des effets de notre action et la réalité de cette action. Pour le dire très vite, lorsque je prends l'avion, j'ai bien du mal à m'imaginer. Vous disiez tout à l'heure sur le micro. Lorsque je prends l'avion, j'ai bien du mal à m'imaginer la totalité des conséquences que cela peut engendrer. Et finalement, Eichmann aurait été victime de cette loi du décalage. Lui, à Berlin, lorsqu'il appuie sur un bouton, il ne peut pas s'imaginer tout ce que cela engendre en termes d'effet. Et Anders, et après je termine, je vous redonne la parole, conclut ce passage de son texte en disant, mais à ce moment-là, il y a deux attitudes possibles. Soit on prend la loi du décalage pour s'excuser, c'est la défense d'Eichmann, je n'y suis pour rien, j'obéis aux ordres, je suis... voilà. Soit, au contraire, on prend la loi du décalage pour se responsabiliser. C'est bien parce que je ne sais pas tout ce que mon action peut engendrer, parce que je suis malgré moi anesthésié, insensible, indifférent à tout ce que cela peut engendrer, que je dois être vigilant et que je dois réfléchir à 2 fois, à 10 fois, à 50 fois avant de me lancer dans telle ou telle type d'action. Et donc finalement, ici, ça ne serait pas tant une excuse en disant je n'y suis pour rien, c'est le décalage, ou au contraire, un appel à la vigilance, à la responsabilité. C'est parce que tu ne sais pas que tu dois être le plus vigilant possible. Attends, je crois qu'il y avait un ordre. Excusez-moi, j'ai un peu trop pris la parole. Oui, monsieur.
Je voudrais faire deux choses. La première, c'est par rapport à ce que vous disiez sur le cas.
Bien fort, dans le micro.
Vous m'entendez ?
Oui.
La première chose sur le cas d'Eichmann, la question de la division des tâches, et faire une action tellement résiduelle dans un grand groupe, on ne peut pas considérer donc, ça, une décharge et ça crée la distance. Moi, j'ai envie de dire, si on voit, capable de lire entre les. La propagande occidentale, concrètement, ce qui crée le plus de dégâts, entre guillemets, dans le monde, ça reste l'Occident. Regardez les discours universalistes. En fait, il faut dire que l'Occident, ce sont des démocraties. Donc, si Eichmann est coupable, le citoyen lambda est coupable des actions justement violentes des étrangers, justement, à l'étranger. En fait, il ne faut pas se l'oublier, il ne faut pas se décharger de cette responsabilité. Quand il y a un mort en Afrique ou en Asie, sous les armes occidentales, la personne à ma droite et à ma gauche est responsable. Je sais que dans l'idée, ce n'est pas le cas, mais dans l'idée, c'est ça. défendre un principe de démocratie en voulant l'imposer aux autres, ça suppose cette responsabilité-là à l'échelle individuelle. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que j'ai entendu sur la banalisation du mal avec les exemples de rente mécanique, moi je me suis posé la question sur le qu'est-ce qui crée justement cette froideur et cet élan. J'ai un truc qui m'a intrigué, j'avais lu il y a très longtemps. Quand Goethe a publié à son époque Les Souffrances du Libertaire, ça avait créé une vague de suicide dans la jeunesse, tellement ça avait été violent et, pour les gens de l'époque. Moi je l'ai lu, en fait ça m'a remonté. La réponse que j'ai trouvée.
Parce que ça y est, vous êtes anesthésié.
Voilà. En fait, je me suis en train de dire qu'on ne vit pas à l'époque, fin du 7e ou même au Moyen-Âge. En fait,
parlez un petit peu plus fort, parce qu'apparemment, on ne vous entend pas.
D'accord. Voilà. En fait, à cette époque-là, il n'y avait, avait pas l'imprimerie. Il y avait très peu d'images. Je vois qu'à notre époque, on estime que. L'humanité produit en 2 minutes plus d'images que ce qui a été créé au 19e siècle. Donc on est à propos d'images, on est créé la banalisation. Quand il y avait des personnes qui allaient au Moyen-Âge à la messe, dans l'église, et qu'on voyait des statues, des images, il y avait quelque chose d'édifiant, impressionnant. Et en fait, à l'époque, quand on fait chez soi, on avait une table, une chaise ou de la paille, il n'y a rien d'autre. Donc, forcément, il y avait l'image était rare. La musique était rare, si on avait un orchestre, on n'entendait jamais de musique, à moins d'avoir quelqu'un qui chante presto, qui joue. Donc les trouver un petit troubadour quand on était riche, ou alors quelqu'un proche de soi, et pas les trouver qui chantent bien. Donc aujourd'hui, des gens qui chantent bien, on n'en a pas beaucoup, je ne vois pas pourquoi on aurait eu tous à l'époque. Et quand on voit la nouvelle star, par exemple. Donc ce que je disais, c'est que on est vraiment à prôner d'images, de musique, de fiction. Même dans le réel, dans la science-fiction, et peut-être qu'à l'époque, prenez l'exemple de Werther ou l'exemple de Rome mécanique, à l'époque, en fait, si l'impact était plus. Je parle de l'histoire, mais quand on voit, par exemple, quand on lit des. Quand on regarde des films quand on a 15 ans, c'est pas comme quand on les regarde quand on a 50 ans. Je pense qu'il y a une sorte de. On devient plus blasé, une sorte d'habitude, et c'est ce qui crée l'anesthésie. Et je pense que c'est pas nécessaire qu'on peut avoir un niveau personnel pour des choses artistiques, on peut les transposer pour des choses plus politiques au niveau, enfin collectif.
Très bien, merci. Oui.
Je vais juste dire 3 choses. Une contemporaine, on est abreuvé d'images tant qu'on choisit de regarder les images. On peut parfaitement se tenir à l'écart ou à l'abri. C'est un choix possible tous les jours. On parle de coach et d'injonction et de coach de vie, et de tout ce qu'on peut faire passer comme message sur le mignon. Il a toujours existé depuis des siècles ce qu'on appelait des directeurs de conscience, qui, je pense, anesthésier sérieusement sur toutes les femmes qui allaient régulièrement voir les pères de l'Église pour savoir comment agir, comment faire, comment penser, comment ne pas pécher. Et puis, une chose, il y a 3-4 ans, je pense qu'on a eu une belle anesthésie énorme avec des experts. Des experts en Covid, des gens, des experts qui. Et là, c'était pratique parce qu'on disait, oh oui, c'est l'expert qui l'a dit. C'est un scientifique. Donc,
madame, on n'a pas encore entendu.
Oui, moi je pensais à ce que vous avez dit.
Peut-être qu'on peut changer de micro, parce que j'ai l'impression que celui-ci a un son un peu plus puissant.
De la responsabilité des individus par rapport au procès de Eichmann, lorsque vous parlez de sa défense, qu'il obéissait aux ordres, et ça m'a tout de suite fait penser à l'expérience de Milgram,
Parce que on dit on est tous responsables, mais les individus sont différents. Dans l'expérience de Milgram, il y a
alors peut-être individus... rappeler ce que c'est que l'expérience de Milgram pour chacune et chacun. Je vous laisse le faire.
Alors, l'expérience de Milgram, c'est Milgram qui a fait des études justement suite à la Deuxième Guerre mondiale, des concentrations. Ça s'est fait en 62, je crois, 1962.
Oui, 1962. Ça a été réitéré ensuite jusqu'à maintenant,
oui.
En fait.
Oui. Oui. Et donc, pour, il a étudié au niveau du cerveau humain l'exécution des ordres, jusqu'à où un individu obéissait aux ordres.
Ouais, le degré de soumission à l'autorité.
Le degré de soumission à l'autorité.
Il y a une autorité, pour reprendre ce que vous évoquiez, madame, une autorité chez Milgram scientifique.
Oui.
Avec un homme en blouse blanche qui représente la science.
Voilà. Et donc des ordres étaient donnés de provoquer des souffrances à des individus qui étaient d'ailleurs complices, ils étaient dans l'expérience. Et c'est le finalement qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Il y avait une complicité pour exécuter l'expérience.
Je me permets juste. Pas corriger, pour compléter. Je regarde l'heure pour pas qu'on déborde trop par rapport à l'horaire qu'on vous a donné. L'expérience de Milgram, on est en 62. On publie une annonce dans des journaux locaux. Voulez-vous participer pendant une journée, ou une demi-journée plutôt, à des tests sur l'apprentissage de la mémoire, l'apprentissage mémoriel. Rien à voir avec la soumission à l'autorité, ça, etc. Et puis, il n'y a pas d'argent à gagner. On vous paye simplement votre repas, votre ticket de métro, votre ticket de transport en commun, point. Voilà. Donc, il y a 60 personnes qui se présentent, issues de différents quartiers, différentes classes sociales, des hommes, des femmes, et ça, c'est un panel dit représentatif. Et donc, finalement, la personne qui se présente croit collaborer à un test sur la mémoire. Ce test sur la mémoire, il est très simple. On a un questionneur, c'est le cobaye qui ne sait pas qu'il est cobaye de l'expérience. Mmh. On a à côté un scientifique qui est celui qui va organiser l'expérience. Et puis, on a un sujet qui est complice, qui est celui qui va devoir répondre aux différentes questions que le cobaye naïf lui pose. Différence, le petit twist dans l'expérience, c'est que la personne à qui je pose des questions est apparemment reliée à un système électrique. Et à chaque mauvaise réponse, moi, questionneur, je dois lui balancer une décharge électrique croissante, de 15 volts en 15 volts. Ça part de 15 et je crois qu'on s'arrête de mémoire à 450, 465 volts, enfin quelque chose d'absolument terrible. Évidemment, il n'y a pas de fil électrique, mais en tout cas, celui qui pose la question le croit. Donc, il a à sa droite un scientifique et en face de lui, un type qui très vite ne va pas répondre correctement aux questions. Et donc, le scientifique doit dire, vous devez respecter le protocole, et puis, en cas de mauvaise réponse, une décharge électrique. En cas de non-réponse, si à un moment donné, il mime le silence, comme s'il était, il avait perdu connaissance, en cas de non-réponse, considérez la mauvaise réponse comme une absence de bonne réponse, décharge électrique. Et Milgram va donc repérer le degré de soumission à l'autorité, c'est-à-dire jusqu'à quel moment ce cobaye là qui, c'est vous, c'est moi, c'est un citoyen lambda, d'accord, ce cobaye qui pose des questions, jusqu'à quel moment va-t-il accepter de balancer des décharges électriques à un inconnu? Vous voyez, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de ressentiment idéologique, que sais-je encore. À quel moment il va s'arrêter en disant stop, c'est insupportable ce que vous me demandez de faire, au nom de la science, je suis obligé de torturer quelqu'un, etc. Et on s'aperçoit, excusez-moi, je complète pour terminer, que chez Milgram, on a de mémoire, 60% des candidats qui vont aller jusqu'au terme de l'expérience, c'est-à-dire jusqu'à balancer 450 volts à quelqu'un, et que la moyenne des chocs électriques, c'est 320 de mémoire. Je laisse ça à l'esprit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience de Milgram a été refaite dans d'autres pays, avec d'autres personnes. On est à peu près sur les mêmes chiffres. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a un peu plus, en 2009, 2010, sur France Télévisions, sur France 2, il y avait un vrai faux jeu télé qui avait été proposé sous la forme d'un très long documentaire que j'ai gardé en archive, qui s'appelait La Zone Extrême. Et ce vrai faux jeu télé, on reprenait exactement le dispositif de Milgram, à la différence près, il y avait trois éléments différenciés de différence. On n'était pas dans un, on n'était plus dans un laboratoire scientifique, on était sur un plateau télé. Le scientifique, ce n'était pas un scientifique, c'était une présentatrice qui à l'époque était connue, je ne me rappelle plus le nom de cette dame, d'accord. Et donc, pareil, on devait balancer des décharges électriques avec un troisième élément, il y avait un public derrière le candidat, et la candidate, qui lui-même était public naïf, ne savait pas que tout ça c'était des faux chocs électriques, etc. Et là, on monte, avec le même nombre de candidats, on monte à 80% des candidats qui vont jusqu'au bout, et une moyenne, je crois qu'elle était à 360 volts, etc. Bref, avec la présence d'une caméra, d'un public, des relances de la présentatrice, on a un taux d'obéissance qui est encore plus important que dans un laboratoire scientifique.
Il y a un film, le film d'Alain René.
Le film d'Alain René, Icomicar, oui, qui met en scène cette expérience de mise en scène. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, madame.
C'est juste deux mots, c'est tout. C'est que parmi les personnes qui ont été jusqu'au bout, il y a un certain pourcentage qui ont avoué avoir pris plaisir à le faire. Voilà. Donc tous les individus ne sont pas identiques, en fait. On ne réagit pas tous de la même façon.
Bien sûr. Effectivement, alors là, pour le coup, on a quand même l'idée, enfin, l'une des leçons de cette expérience de Milgram, il y en a plein des leçons mais, qu'on pourrait tirer, l'une des leçons, c'est que cette anesthésie, peut-être pas de l'esprit, mais en tout cas du cœur, vient de la confiance qu'on place. Alors, il y a plusieurs raisons, mais on est seul par rapport à un ordre, etc. Donc c'est très difficile de désobéir, c'est très difficile aussi d'avouer qu'on a eu tort de s'engager, mais vient aussi de la confiance qu'on place dans l'autorité télévisuelle ou scientifique.
Qui dégage la responsabilité.
Oui. Vous vouliez prendre la parole pour peut-être une dernière prise de parole.
C'était juste pour dire qu'il y avait, par rapport à,
n'hésitez pas
à la banalisation du mal, le film et livre, le liseur.
Ah, je vous fais pas.
Le liseur, c'est de, je me souviens plus le nom d'auteur, c'est un auteur allemand qui a écrit. Alors je ne vais pas raconter parce que. Et c'est exactement ça. C'est l'histoire d'une femme qui a participé, sans le savoir à l'époque, à la déportation de femmes.
D'accord.
Et donc c'est toute cette histoire et c'est vrai que ça questionne énormément sur la responsabilité et le fait de n'avoir fait qu'obéir. Et elle a un procès aussi, elle dit ben moi j'ai obéi. Et après bon il y a tout son cheminement intérieur et voilà. Avec effectivement la dualité, est-ce que je prends conscience ou est-ce que je dis ben non j'y suis pour rien.
Oui. Vous avez le film récent, pardon. Oui. Oui. Le film récent qui est sorti en 2023, à la fin de l'année 2023, La Zone d'intérêt,
ouais.
Vous avez peut-être vu ou entendu parler, qui met en scène, à partir de ses mémoires, Rudolf Höss, qui était le commandant du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et on le voit dans sa. On ne voit jamais le camp, mais on le voit dans sa petite maison, avec sa femme, ses enfants, vivre une sorte de vie paradisiaque, juste à côté, mais vraiment. De l'autre côté du mur, des chambres à gaz et des fours crématoires. À partir du livre, du roman aussi de Robert Merle.
C'est Bernard Schlink.
La mort est mon métier.
Bernard Schlink.
D'accord, pour le livre. Tu voulais prendre la parole pour terminer ? Et puis je proposerai une petite conclusion. La zone d'intérêt. La zone d'intérêt. La zone d'intérêt, c'était le nom que les nazis donnait, j'ai appris ça en m'informant sur le film avant d'aller le voir, c'est le nom que les nazis donnaient à la zone séparant le camp d'Auschwitz-Birkenau de la population polonaise, qui était sur quelques kilomètres.
Moi, je voulais parler d'une émission que j'avais entendue sur. Il y avait une prof de mathématiques qui exerçait son métier à Polytechnique. Donc. Et en fait, elle s'était rendue compte qu'on apprenait, donc elle formait beaucoup, à Polytechnique, il y avait beaucoup de gens qui devenaient des traders. Et en fait, elle s'est rendue compte à un moment donné qu'en fait, on c'était mathématiques, on faisait, etc. Et en fait, ça a conduit à quelque chose qui était les émeutes de la faim. Puisque les traders, ils jouent bon, pour faire monter, faire baisser les cours. Et donc, il y a une journaliste donc, qui est venue et qui a montré ce qui se passait. Et pour auquel, évidemment, les gens qui étaient derrière les ordinateurs, ils ne pensaient pas du tout. Et la prof, elle s'est sentie extrêmement coupable parce qu'elle leur donnait des moyens de gagner beaucoup d'argent, mais absolument pas de s'occuper des effets collatéraux que ça pouvait engendrer dans le monde entier, quoi. Notamment les émeutes de la fin d'Haïti.
Oui. Une rapide conclusion, puisqu'il est déjà 20h42 exactement. J'ai envie d'insister sur deux points, c'est un débat très riche. Je pense qu'on a cerné pas mal d'enjeux. Sur deux points, et d'abord d'en revenir au père de la philosophie, à un certain Socrate. Et vous savez que Socrate, il est mort en -399 avant Jésus-Christ. On connaît très bien sa date de décès. Sa date de naissance est plus difficile à établir. Pourquoi est-ce qu'on connaît très bien sa date de décès à ce brave Socrate, hein, le père de la philosophie? C'est que Socrate a été condamné à mort par la démocratie athénienne, à quelques voix près. Et Socrate, pourquoi est-il condamné à mort? Parce qu'en fait, il a été jugé. Et Platon met en scène le procès de Socrate, dans ce qu'on appelle l'apologie de Socrate, il met en scène ensuite sa mort, donc Créton, enfin bref, peu importe les références. Et pourquoi est-ce qu'il a été jugé? Parce qu'en fait, il a été accusé. À l'époque, il y avait des accusateurs publics qui parlaient au nom des citoyens athéniens. Et ce qu'on reproche à Socrate, c'est pour dire d'un mot, c'est d'ennuyer tout le monde. Alors, c'est pas dit comme ça. On lui reproche son impiété, on lui reproche de ne pas honorer les dieux de la cité comme il se doit, parce qu'il refusait de participer aux différentes cérémonies et processions, et on lui reprochait de ne pas être un bon citoyen, d'être quelqu'un qui était en train de corrompre l'esprit de la jeunesse. C'était ces deux chefs d'accusation. Mais si on veut aller vite, ce qu'on lui reproche finalement, c'est d'ennuyer tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il ennuie tout le monde? Parce que Socrate, pour les Athéniens, c'est celui précisément qui empêche la machine de bien fonctionner, qui nous empêche effectivement de dormir tranquillement sur nos deux oreilles, comme le philosophe de Rousseau dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, Socrate, il interroge, il questionne. Il est, vous savez, vous connaissez peut-être la fameuse formule que Platon prête à son maître Socrate, « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Toi, tu crois savoir, et tu nous dispenses ton savoir, et tu gagnes l'autorité politique, sociale par ton savoir. Mais moi, qui suis philosophe, moi, il y a une chose dont je suis certain, c'est que quand tu crois savoir, tu ne sais pas, mais que moi, je n'en sais pas plus que toi, à la différence près, c'est que moi, je sais que je ne sais rien. » Et cette conversion à l'ignorance, on appelle ça de conversion à l'ignorance, savoir que l'on ne sait rien, il faut se forcer, tous les jours. C'est un peu ce dont vous parliez sur la vigilance, sur l'examen de conscience, sur cette alerte. Savoir qu'on ne sait rien, on est tous plein de savoir. On est tous plein de certitude, en tout cas. On est tous plein de conviction. Et comme vous disiez, on est sûr d'avoir raison, et on est du côté de l'éthique, et puis les autres sont plutôt du côté du mal, etc. Bref, lorsqu'on se force à cette conversion à l'ignorance, eh bien, qu'est-ce que ça donne pour effet direct? On est beaucoup plus lucide, on est beaucoup moins insensible, on est beaucoup moins indifférent, on sort de cette anesthésie qui est soit construite politiquement, tout est complémentaire, c'est pas un soit, c'est un et, qui est et construite politiquement, et construite socialement. On n'a pas évoqué le rôle de l'éducation, mais le rôle de l'éducation, c'est bien ça, c'est de nous rendre indifférents au sort des inconnus et assez sensibles au sort de nos proches et à nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Bref. Donc, cette indifférence qu'il disait, qui est construite politiquement, qui est construite socialement, qui est construite par l'expérience de chacune et de chacun. Vous disiez, on est peut-être moins sensible à 50 ans qu'à 15 ans. Moi, je me rappelle le bouleversement qui fut le mien. C'est pas très original, mais je m'en rappelle encore comme si c'était hier, lorsqu'à j'étais collégien, 4e, 5e, on m'avait donné à lire le journal d'Anne Frank. Lecture saine, que l'on propose encore à nos, à nos collégiens, ben, c'était un vrai bouleversement. Et si aujourd'hui je le relisais, est-ce que je serais aussi bouleversé? Ben, peut-être pas, parce que effectivement, je ne suis plus le jeune homme que j'étais à cet âge-là. Bref, finalement, il y a cette indifférence qui est, encore une fois, soit construite par une stratégie machiavélique de propagande, de nudge, etc., soit construite par les habitudes, soit construite finalement par des dispositifs aussi de protection. D'accord, on ne peut pas porter sur son dos toute la misère du monde, soit construite par cette société moderne qui opère des décalages entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Mais toujours est-il qu'il y a un Socrate qui arrive et qui nous dit, mais quand sais-tu? Essaye de remettre en cause, finalement, pourquoi est-ce que tu mangerais encore de la viande? Pourquoi est-ce que tu irais encore avoir ce désir de traverser l'Atlantique pour aller visiter le continent sud ou nord-américain? Pourquoi est-ce que tu aurais encore besoin de tel ou tel gadget dernier cri? Et finalement, est-ce que tu n'es pas toujours en train de te cacher derrière ta responsabilité individuelle et collective sous prétexte que le monde est comme ça, ça a toujours été comme ça, on n'y peut rien, et puis si c'est pas moi qui le fais, ce sont les autres. C'est aussi l'argument d'Eichmann. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Bon, bah, c'était moi. Donc, voilà, j'étais un rouage dans la machine. Et puis, un rouage, et un rouage, c'est toujours un rouage. Et finalement, le Socrate, c'est celui voilà, qui vient nous piquer, d'accord, et qui vient nous dire, mais doute, interroge-toi, questionne l'ordre du monde, questionne l'ordre social. Et on comprend pourquoi les Athéniens ont eu raison de l'accuser de corruption de la jeunesse. Parce que si vous commencez à dire à vos gamins, interroge-toi, doute, ne te laisse pas compter par ceux qui te disent de faire ceci, de faire cela, ben en fait, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est le bazar, pour le dire de manière très polie. Et Socrate, vous savez peut-être, était comparé, en tout cas, on a ça dans deux textes de Platon, était comparé à un temps. Le temps, voilà, il est là. Déjà, il nous gêne, il nous perturbe. Il est là, le temps, il tourne autour de nous, il cherche à nous piquer. On essaye de s'en débarrasser, on fait comme ça, là, voilà. On est un peu tranquille pendant 5 secondes, 30 secondes, et puis il revient. Et puis à un bon moment, il y a un moment d'inattention de notre part, et il nous pique. Et quand il nous a piqué, quand Socrate nous a piqué, ben en fait c'est trop tard. Ça nous gratte. Ça nous gratte, on est irrité, ça nous gratte, on a un bouton, enfin bref, on a cette irritation. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de se soigner, on essaie de revenir à nos habitudes, mais quand même, on a quand même été piqué. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à un temps, ben, il faut essayer de s'en préserver. Et la meilleure façon de s'en préserver, c'est de le supprimer. Et que font les Athéniens? Encore une fois, c'est par un vote. Hein. À l'époque, les procès réunissaient à peu près, je crois, 300-400 votants. Je vais peut-être dire des bêtises. Il n'y a pas quelqu'un qui me corrigera dans la salle. Bref, on vote à main levée. Et les Athéniens disent, mais nous, on n'en veut plus de Socrate. Il faut le tuer. Et pourquoi est-ce qu'il faut le tuer, Socrate? Parce que nous, on veut être des Athéniens. On veut être des Athéniens tranquilles, quoi. On veut être indifférent au sort des, je sais pas quoi, là, des métèques. Vous savez, tous ces gens-là, ces esclaves, les femmes, enfin, tous ces êtres-là qui sont pas des vrais citoyens athéniens, quoi. Arrête, quoi. Tu vas pas nous saouler avec tout ça. Et donc, finalement, voilà, il faut s'en débarrasser. Et moi, je vote pour sa mort. On peut comprendre. Je ne dis pas qu'on peut justifier, mais on peut comprendre le vote des Athéniens. Effectivement, quand quelqu'un vous pique et vous dit, mais finalement, mais rends-toi sensible, éveille-toi, rends-toi vigilant, ben, il vous dérange. Il nous dérange, il me dérange. Et vous voyez bien, si je vous reprends l'exemple animaliste, les militants de la cause animale et L214 qui viennent vous déranger pendant vos courses dans vos supermarchés en disant, mais que fais-tu? Ben, ils vous importunent. Ils disent, oh, c'est bon, laissez-moi prendre du poulet, quoi. Enfin, voilà. Mais, et on aurait bien aimé qu'ils ne soient pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous disent, mais arrête cette anesthésie. Et finalement, je pense que cette anesthésie, elle repose sur une mise à distance, qui peut être soit géographique, évidemment, soit psychologique, soit, pardon, excuse-moi, ethnique, mais pas au sens racialiste du terme, c'est-à-dire ma communauté, et puis, voilà. Mais que, finalement, c'est cette incapacité à comprendre que l'autre est un humain comme moi, que l'autre est un vivant comme moi. Et je voudrais juste terminer, parce qu'il est déjà 20h50, sur un, je crois que c'est un proverbe tibétain que j'ai à l'esprit, comme ça. C'est, je ne sais pas, je ne pourrais pas le référencer. C'est un proverbe tibétain On est en pleine montagne, là-bas, sur les confins de l'Himalaya. Et puis, au loin, je vois un drôle de bête, un animal féroce. J'essaye de m'en protéger. Je me dis, oula, là il y a un danger, là il y a de la peur, il va falloir que je sois vigilant, il va falloir que je me protège. Et puis cette bête, elle se rapproche, et puis je m'aperçois que finalement, c'était pas une bête, c'était un homme. Mais un homme, un inconnu. Donc déjà, bon, je vais peut-être essayer de dialoguer, mais quand même. Et puis plus il se rapproche, cet homme, je m'aperçois que c'est mon frère. Et la leçon, vous l'avez comprise, c'est pourquoi est-ce qu'on est indifférent, pourquoi est-ce qu'on est sensible, insensible, pourquoi est-ce qu'on se rend finalement, pourquoi il y a cette anesthésie du cœur et de l'esprit? Parce qu'on a bien du mal à voir le frère dans le visage de l'autre homme, et qu'on a bien du mal à voir le frère dans le visage du non-humain, dans le visage du vivant. Je vous remercie. Sur ce, n'hésitez pas, il y a ce petit temps de convivialité. Alors on fera comme s'il n'y avait pas de dissonance cognitive entre ce que l'on consomme et les éléments qui ont permis à ces éléments d'être.